Cette déclaration universelle était nécessaire. Puisque la guerre avait été une guerre des droits de l'homme, il fallait que la paix fût d'abord une paix des droits de l'homme.
D'histoire. Il y a 60 ans, jour pour jour, le 10 décembre 1948, l'Assemblée générale de la toute nouvelle Organisation des Nations Unies votait les 30 articles de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Trois ans après les atrocités de la guerre, la communauté internationale voulait que le nouvel ordre mondial repose sur les droits de l'homme. Puisque la guerre avait été une guerre des droits de l'homme, il fallait que la paix fût aussi une paix des droits de l'homme, disait René Cassin, un des rédacteurs de la Déclaration de 1948, dont l'article 1er proclamait « Tous les hommes naissent libres et égaux, en dignité et en droit ». C'était presque dans les mêmes termes que commençait la Déclaration des droits de l'homme, votée 159 ans plus tôt par l'Assemblée nationale de la Révolution française, le 26 août 1789.
Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels, inaliénables et sacrés. De l'homme. Article 1er.
Les hommes naissent libres et égaux en droit.
Sur ces droits si plus impédants, à débiter maintes sottises, si l'un est gris, si l'autre pend, si celui-là nous dévalise.
Emmanuel Decaux, bonjour. Vous êtes directeur du Centre de recherche sur les droits de l'homme à l'Université Panthéon-Assas Paris 2 et puis l'auteur d'un livre qui recense tous les grands textes internationaux sur les droits de l'homme, le premier étant justement la Déclaration de 1789, mais la France, vous le rappelez, n'était pas la première à inventer ce concept de droits de l'homme. Les États-Unis l'avaient fait avant elle.
Alors c'est tout un mouvement qui est né au XVIIIe siècle avec les révolutions américaines et françaises, mais on peut même remonter jusqu'à la Réforme et à la Renaissance, et même au Moyen-Âge avec la Magna Carta en Grande-Bretagne ou les libertés communales en France. Finalement, c'est toute une philosophie de l'individu fondée sur la liberté et la tolérance qui trouve son épanouissement dans la philosophie des Lumières et ensuite sa consécration politique avec les grands textes aux États-Unis et en France.
Alors, États-Unis, c'est la déclaration d'indépendance. Tous les hommes sont créés égaux et sont doués de droits inaliénables. En 1789, les mêmes termes, pratiquement, les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est donc vieux, les droits de l'homme, si on peut dire.
Et il y avait une influence réciproque, ne serait-ce que par Lafayette. Mais à l'époque, les colonies américaines étaient des petites colonies au bout du monde, tandis que la France était la grande nation. Donc je crois que le poids de la Révolution française en Europe et dans le monde a été décisif, avec... aussi une dimension nouvelle, c'est que la déclaration américaine est une revendication contre le roi
L'Angleterre,
tandis que la France, pour le meilleur et pour le pire, à une vision universaliste.
Oui, tout à fait. C'est les droits de l'homme et ce n'est pas les droits des Français. Autrement dit, il y a une vocation universelle.
Voilà. Alors du coup, il y a l'idée d'exporter la liberté à travers le monde. Et évidemment, c'est toutes les ambiguïtés des guerres révolutionnaires et des guerres napoléoniennes.
Quelle différence, justement, Emmanuel Decaux, entre la déclaration française, qui a une vocation universelle, on vient de le dire, et la déclaration universelle de 1948 ?
Alors là, on passe 150 ans après, évidemment. Et la grande différence, c'est que les auteurs de la Déclaration universelle sont tous les États membres des Nations unies. On situe après la guerre, et donc il y a une cinquantaine d'États aux Nations unies. Mais contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas seulement les Occidentaux, ce sont les vainqueurs, y compris l'Union soviétique, et puis ce qui était déjà ses satellites. Il y a un bloc soviétique qui est très puissant au sein de l'Assemblée générale.
Il y a autre chose aussi quand même. Il y a le fait que la déclaration française ne se préoccupe pas des droits économiques, sociaux et culturels.
Voilà,
les droits politiques et civils.
Voilà, donc c'est dans un cadre plus large, et il y a une synthèse intellectuelle entre les droits civils et politiques, les libertés publiques classiques, et puis les droits économiques, sociaux et culturels. Donc comme acteur, comme protagoniste, non seulement les Occidentaux, et Madame Roosevelt pour les États-Unis, Cassin pour la France, d'autres, y compris Fernand de Hoos pour la Belgique, ont eu un rôle important, mais on néglige trop souvent, surtout en France, de dire que des grands pays du tiers-monde étaient présents. La Chine a été très active dans la genèse de la Déclaration universelle.
C'est pas encore la Chine communiste.
Voilà.
Pour rappeler.
Mais c'était une Chine très chinoise, très confucienne. Confucienne.
En tout cas, et ont participé donc à ce texte, hein, vous le disiez, élaboré par quelques hommes et femmes, hein, que vous citiez, le français René Cassin en effet, le canadien John Humphrey, un Libanais, hein, Charles Malik, et puis alors l'épouse, vous le disiez aussi, du président des États-Unis, qui était mort lui en 1945, Eleanor Roosevelt, pour laquelle la Déclaration universelle des droits de l'homme devait être la cause de chaque homme dans le monde.
This universal declaration of human rights may well become the international Magna Carta of all men everywhere.
La paix, vue poursuivie depuis trois mois par la session des Nations Unies réunies à Paris, et dont M. Robert Schuman, ministre français des Affaires étrangères, devait saluer la dernière séance en se félicitant que les délégués de 52 nations aient voulu choisir Paris pour édicter la nouvelle déclaration des droits de l'homme.
Nous considérons, nous Français, qu'il y a là une espèce d'hommage rendu aux efforts séculaires de l'esprit français dans la recherche d'une paix universelle.
Après la session de Chaillot, de nombreux problèmes restent sans solution. La tâche de l'ONU risque d'être encore longue et pénible.
Une conférence des Nations Unies, au cœur de la France s'étant réunie. À la conférence, un des délégués cria espérance, messieurs écoutez.
Délégué espagnol.
C'est ainsi que la guerre fut évitée.
Par l'Assemblée,
et c'est ONU Samba, une chanson de décembre 1948, au moment même où l'ONU donc votait cette Déclaration universelle des droits de l'homme à Paris. On peut être surpris parce que l'ONU, on est habitué à la voir plutôt à New York.
Au début, l'ONU a bougé. L'Assemblée générale, la première session de l'Assemblée générale en janvier, en février 1946, c'était à Londres. Après, la deuxième session a été à New York, et puis il y avait des problèmes de locaux, de travaux, ce qui fait que la troisième session s'est réunie à Paris, au Palais de Chaillot.
La patrie des droits de l'homme, pour voter la Déclaration des droits de l'homme. Alors, voter le 10 décembre, il y a donc exactement 60 ans jour pour jour, aujourd'hui, par 48 pays sur 56. Hein. Tous les pays n'ont pas voté, certains se sont abstenus, Emmanuel Decaux.
Voilà, alors il y a eu 8 abstentions, et quand on voit les débats les choses n'étaient pas jouées d'avance. Mais le gros bloc des abstentions, c'était l'Union soviétique et ses satellites qui étaient assez virulents. On était vraiment à l'époque du rideau de fer et il y a des polémiques entre Vyshensky, le procureur stalinien qui représentait l'Union soviétique et Cassin, y compris le 9 et le 10 décembre. Et puis, il y a deux autres abstentions qui sont très significatives. C'est celle de l'Afrique du Sud en raison de l'apartheid, je crois que c'est très clair. Et puis, celle de l'Arabie saoudite pour des problèmes de liberté religieuse et de discrimination à l'égard des femmes. Ce qui est très intéressant, ce qu'on a oublié de dire, c'est que l'Égypte et le Pakistan, qui étaient des pays très musulmans, ont pris position de manière très claire sur la déclaration, en disant qu'ils allaient voter pour la déclaration. Le représentant du Pakistan a insisté sur le lien entre l'islam et la liberté de conscience, ce qui est très original quand on voit nos débats d'aujourd'hui.
En tout cas, personne n'a voté non, il y a eu 8 abstentions, mais pas de non, pour voter donc ces 30 articles dont tout le monde un peu a oublié le contenu. On le sait, tout le monde a entendu la Déclaration universelle des droits de l'homme, elle est suffisamment invoquée aujourd'hui. Mais alors le contenu, on l'a un peu oublié, et à le lire, au fond, quand on énumère tous les droits de l'homme, justement, que cite cette déclaration, ben on est assez consterné, parce qu'on se rend compte qu'au fond, presque personne ne les respecte. J'en cite quelques-uns. Le droit à la vie, à la liberté, à la sûreté de sa personne. Nul ne sera tenu en esclavage, ni à la torture. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, ni exilé. Toute personne a le droit de circuler librement et de quitter tout pays, et de chercher asile et d'en bénéficier. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion, à la liberté d'opinion et d'expression, à la sécurité sociale, au travail, à un salaire égal pour un travail égal, au repos, au loisir, à une limitation raisonnable de la durée du travail, à l'éducation. On en est loin aujourd'hui, Emmanuel Decaux. Alors, on a reproché justement à cette déclaration de ne pas être obligatoire, d'où les violations à ces droits de l'homme qui ont rapidement été constatées.
Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que, évidemment, pour faire adopter la résolution de l'Assemblée générale, les auteurs de la déclaration, à commencer par Mme Roosevelt, ont minimisé sa portée en disant que c'était un engagement politique, un engagement moral, mais qu'une deuxième phase était nécessaire, c'est de passer par des traités en bonne et due forme où les États retrouveraient leur souveraineté, adhéraient aux traités, faisaient des réserves. Et donc là, on a une dynamique qui a été lancée très lentement, j'allais dire, puisque les deux pactes ont été adoptés en 1966, donc les deux pactes qui traduisent en obligation juridique les grands principes lancés en 48. Donc il a fallu attendre la détente, la coexistence pacifique pour que les pactes soient adoptés. Ils sont entrés en vigueur en 76, donc c'est encore un bail. Et maintenant, on a une situation qui est assez satisfaisante sur le plan juridique. La réalité, c'est encore un autre problème. Mais on a à peu près 160 États sur 190 qui ont ratifié les deux pactes. Donc la transformation de l'essai a été faite, mais de manière très lente. Donc 60 ans après, on peut dire que les principes du pacte ont été transposés en obligations juridiques pour la plupart des États de la communauté internationale.
Un travail très lent, assez difficile, ce que reconnaissait d'ailleurs René Cassin lui-même lorsqu'en 1968, il recevait le prix Nobel de la paix, 20 ans exactement après la Déclaration universelle des droits de l'homme.
Nous n'avons pas parcouru tout le chemin. Nous avons posé les bases de l'ajustement des institutions humaines aux réalités du monde moderne. Je crois que la Déclaration universelle n'a pas été seulement ce qu'à l'origine elle a été, il faut le reconnaître, une protestation. C'était une grande réaction contre la barbarie. Mais elle a aussi découvert les aspirations profondes des hommes. On peut dire que maintenant, les problèmes qui existaient, que tout le monde traitait, mais qu'on traitait séparément, sont maintenant traités d'un point de vue plus général, plus humain.
Un commentaire, Emmanuel Decaux, sur cette déclaration de René Cassin en 68, il y a quand même 40 ans déjà de cela, qui semble plutôt optimiste, qui reconnaît les limites, mais on traite les problèmes désormais de problèmes de manière plus humaine, disait-il.
Oui, c'est émouvant d'entendre René Cassin parce qu'il était très éloquent et puis situé au niveau de l'histoire. En même temps, il avait toujours envie de démissionner parce que les choses n'allaient jamais assez loin. Et il y a une force, un dynamisme qui l'animait, qui est extraordinaire. Je crois que le grand tournant, c'est évidemment en 1945 avec la Charte des Nations Unies, où pour la première fois dans un texte international, on parle des droits de l'homme. À l'époque de la SDN, on ne parlait pas des droits de l'homme. Et il y a cette scène fameuse qu'avait évoquée Cassin avec les représentants d'Hitler qui arrivaient aux Nations Unies en 1933, en disant « Charbonnier est maître chez soi, c'est une question de souveraineté, la manière dont je m'occupe de mes opposants, de mes juifs, de mes communistes, ça ne vous regarde pas.
Mmh. » On critique beaucoup aujourd'hui cette déclaration des droits de l'homme au regard de ce qui se passe depuis une dizaine d'années. On oublie quand même qu'elle a eu des raisons d'être satisfaite de son œuvre dans les années 50, 60, 70. C'est vrai qu'elle n'a pas eu que des défauts, cette déclaration des droits de l'homme. Elle a rendu, disait Cassin, les choses plus humaines. Et cela, d'ailleurs, malgré beaucoup de difficultés. Vous les rappelez, l'ONU passe de 56 membres à 194 aujourd'hui. Donc il y a des nouveaux membres. Et puis on reproche beaucoup à l'ONU, au fond, d'avoir voulu, par cette déclaration, imposer à tous les pays du monde des valeurs spécifiquement occidentales.
Non, alors moi je crois que ce qu'on peut reprocher à la déclaration, c'est d'être trop belle. Mais dès le départ, elle a été adoptée par tous les États qui représentaient la communauté internationale de l'époque. Et les États qui sont devenus membres des Nations Unies depuis ont assumé volontairement, avec des obligations juridiques précises, la déclaration. Donc ça fait partie de l'acquis des Nations Unies. Alors, simplement, ce qu'il faut bien voir, c'est que le monde a changé. Et en 1948, des grands pays comme la France étaient en porte-à-faux en raison de la colonisation. Donc le phénomène d'émancipation des peuples qui est apparu dans les années 50 et 60 est né en partie du souffle de la Déclaration universelle. De même, l'accent mis sur le développement, la coopération internationale dans le domaine des droits de l'homme, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Ça aboutit à la fin de l'apartheid, à la fin des dictatures dans de nombreux pays, à commencer par l'Amérique latine ou l'Europe orientale. Donc on a un monde qui est tout de même plus libre. C'est vrai que depuis 10 ans, il y a eu une régression très nette. Mais pendant les 50 premières années, il y a eu un progrès extraordinaire.
Il y a une chose qui est évidemment importante. D'abord, il y a eu la fin de l'apartheid, des espèces d'ostracisme dont l'Afrique du Sud était victime en raison de l'apartheid, a fini par l'obliger à y renoncer. Quelque chose également de très important, bien entendu, c'est la création en 1998 d'une Cour pénale internationale. Parce que là, c'est l'application concrète des droits de l'homme en pourchassant les auteurs de crimes contre l'humanité.
Voilà. Alors, sans compliquer, je crois que dans l'agenda des droits de l'homme, il y a trois volets. Le premier, c'est la promotion des droits de l'homme, c'est d'encourager au respect des droits de l'homme. Il y a une éducation, une pédagogie, des conditions matérielles, le droit au développement, ça c'est quelque chose de très important. Deuxième volet, c'est la protection des victimes, l'enquête, la poursuite. Et puis le troisième volet, c'est la répression des responsables de crimes internationaux avec la lutte contre l'impunité. Alors aujourd'hui, on met beaucoup d'accent sur le troisième volet, mais il ne faut pas oublier les deux autres volets. Je crois que ça fait un triptyque et les trois éléments se tiennent.
Alors malgré tout, les droits de l'homme ont été violés la plupart du temps jusqu'à la fin des années 90, jusqu'à l'extrême fin du XXe siècle. C'était par des pays dictatoriaux, des pays à régime autoritaire. Cela dit, tout change à partir du 11 septembre 2001, qui allait justement remettre en cause les droits de l'homme, non plus seulement dans les dictatures, mais même dans les démocraties.
Voilà ce que des Américains ont fait à des prisonniers irakiens. C'est Dan Razer, la grande vedette de la chaîne de télévision CBS, qui parle. La voix est posée, mais on sent le journaliste profondément choqué. Cet homme, explique-t-il, est attaché à des fils électriques et on lui a ordonné de rester ainsi en équilibre sur cette boîte. En cas de chute, il serait électrocuté. CBS s'est procuré une dizaine de photos du même genre, comme cette pyramide d'hommes nus. Ces photos ont été prises dans la prison d'Abu Ghraib, le symbole même aux yeux des Irakiens de la brutalité du régime de Saddam Hussein, prison qui est maintenant utilisée par l'armée américaine.
Les défenseurs des droits de l'homme craignent que ce qui s'est passé à la prison d'Abu Ghraib ait été inspiré par les responsables du centre pénitentiaire de Guantanamo.
Alors ça, ce sont évidemment des violations manifestes aux droits de l'homme pratiquées par un des pays qui voulait en faire la promotion. Hein. Ça viole l'article 5 de la déclaration. Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ça également s'en prend à l'article 9 de la déclaration. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé, ce qui est le cas à Guantanamo. C'est terrible quand même, ça porte un coup terrible aux droits de l'homme, cela Emmanuel Decaux.
Et d'autant plus que les experts du tiers-monde, puisque je siégeais à l'époque à la sous-commission des droits de l'homme des Nations Unies, qui est un organe d'experts indépendants, nous disaient « nous faisons des progrès et maintenant le bon exemple, le mauvais exemple nous vient des États-Unis ». Donc comment dire que l'action de la police ou de l'armée est injustifiable ? Alors je crois que ce qu'il faut souligner, c'est que aux États-Unis, la presse, la justice d'une certaine manière ont réagi. Donc il y a eu une prise de conscience immédiate et on en trouve la traduction avec les objectifs de la nouvelle administration Obama. Et puis aussi que dans le cas des Nations Unies, il y a eu des réactions. Je me souviens que la sous-commission à propos d'Abu Ghraib a adopté tout de suite une résolution qui a eu tous les membres de la sous-commission comme coparins. Donc c'était assez extraordinaire de voir toutes les signatures de 25 experts indépendants venant de tous les pays pour dénoncer le scandale d'Abu Ghraib. Et c'est la même chose pour Guantanamo. Donc là, on est dans une situation de non-droit qui est contraire à toutes les valeurs américaines.
Et qui ouvre quand même la porte à toutes les contestations. La Chine déclare officiellement, la Chine s'oppose fermement à ce que quelques pays que ce soit se servent des droits de l'homme pour imposer ses valeurs, son idéologie, ses conceptions politiques et son mode de développement à d'autres pays. Autrement dit, là aussi, on est dans les réactions de la Chine à l'invocation des droits de l'homme, à chaque fois, par exemple, qu'elle réprime au Tibet.
Voilà, alors, la situation de la Chine ou des grandes puissances est très ambiguë sur le terrain des droits de l'homme. Je crois que d'un côté, la Chine comprend que pour son propre intérêt, pour le développement de son peuple, elle doit avoir une sécurité juridique qui passe par les droits de l'homme. Il suffit de voir les scandales alimentaires ou les scandales de construction quand il y a un tremblement de terre, les écoles qui s'écroulent sur les enfants. Donc c'est pour les Chinois eux-mêmes que les droits de l'homme doivent être respectés. Il y a tout un travail de persuasion pour que la Chine construise un état de droit respectueux des individus et respectueux des droits de ses propres citoyens. Donc je crois que c'est plus par ce travail de coopération, de persuasion, un travail de long terme, qu'on peut arriver à faire bouger les choses.
Oui, en tout cas, des droits de l'homme qui ne résistent pas toujours aux exigences de la réelle politique, même en France d'ailleurs, où malgré la présence d'une secrétaire d'État aux droits de l'homme, eh bien, on recevait une visite embarrassante au moment même du 59e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, France Inter, Fabrice Drouel, le 10 décembre 2007.
Dans l'attente de Kadhafi, le numéro 1 libyen arrive en France dans une heure pour une visite officielle de 5 jours. Une visite qui divise jusqu'au sein du gouvernement puisque Ramayad proteste en ce jour anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La secrétaire d'État chargée de ce secteur fait part de son malaise.
France Inter.
Sarkozy cherche les intérêts de la France, il s'en fout complètement de la dictature, c'est tout.
C'est impensable d'accueillir ce monsieur qui est quand même un assassin, un dictateur, c'est l'inacceptable et c'est l'horreur.
Je vais vous parler de Mme Ramayad que je trouve ravissante. Je trouve, si vous voulez, que quand on appartient à un gouvernement, il y a une manière quand même de se conduire ou alors on démissionne.
Nicolas Sarkozy a sorti l'argument économique.
C'est pour l'emploi et la croissance des Français. Et que les choses soient claires, sans rien renoncer de mes convictions en matière de droits de l'homme.
Est-ce que les droits de l'homme sont compatibles avec la réelle politique, avec les impératifs économiques, on vient de l'entendre, ou est-ce qu'il n'est pas possible d'avoir une diplomatie des droits de l'homme, comme le voulait le président de la République quand il était candidat à l'Élysée ?
Oui, alors d'abord je crois qu'on peut et on doit parler avec tout le monde, mais il faut choisir le lieu et le jour, et le 14 juillet ou le 10 décembre, ce n'est pas un jour pour parler à des dictateurs, je trouve. Mais encore une fois, la diplomatie des droits de l'homme doit intégrer tous les éléments de la diplomatie. avec la nécessité d'être très sûr de ses valeurs, de ses principes, et de ne pas faire de compromis sur ses valeurs, d'avoir aussi les moyens de parler haut et fort, ce qui veut dire que soi-même, on doit être irréprochable dans le respect des droits de l'homme sur le plan interne, on doit balayer devant sa porte.
Ce qui n'est le cas d'aucun pays, même la France.
Voilà, et donc il y a aussi un travail prioritaire à faire pour respecter les droits de l'homme en France, et je pense au rapport du commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe, Thomas Samarbert, qui vient d'être rendu, qui est une feuille de travail extraordinaire pour les autorités françaises.
La France est pointée du doigt dans le domaine des droits de l'homme.
Donc, le fait d'avoir... Il faut qu'il y ait une articulation entre nos priorités internationales et nos priorités internes. On est crédible sur le plan international que si on est irréprochable sur le plan interne.
Oui, mais est-ce que justement cette articulation est possible ? Ce matin même, dans les colonnes du Parisien, Bernard Kouchner considérait que l'idée de créer un secrétariat d'État aux droits de l'homme, c'est-à-dire le poste de Ramayad, était une erreur. Et il ajoute, Kouchner, il y a contradiction permanente entre les droits de l'homme et la politique étrangère d'un État, même en France.
Alors, moi, je crois que, bon, au-delà des structures ou des personnes, ce qui compte, c'est d'avoir une vue d'ensemble des problèmes. Et les droits de l'homme doivent être la priorité, la préoccupation de tous les ministres. Le ministre des Affaires étrangères, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Justice, le ministre de la Défense. Et donc, il y a une cohérence qui est nécessaire sur le terrain des droits de l'homme, avec le fait que les effets d'annonce ou les petites phrases sont pas suffisantes. Il faut avoir des grands principes et être fidèle à ces principes. Et je crois que c'est la leçon du 10 décembre, c'est que la France, qui invoque son rôle tout à fait légitime dans la naissance des droits de l'homme, doit être fidèle à ces principes.
Mais est-ce que ces principes sont tenables? C'était dans le Observateur ces jours-ci, Robert Badinter disant, par exemple, évoquant les 10 dernières années, 10 ans de régression, dit-il. Est-ce que ces principes peuvent durer? Est-ce que la déclaration, autrement dit, universelle des droits de l'homme, celle de 48, a un avenir? Ou est-ce qu'il faut, aujourd'hui, 60 ans après, la réécrire? Et comment?
Non, je crois pas que vous avez lu les grandes dispositions. Les principes sont clairs, ils sont intemporels. L'objectif, c'est pas de la réécrire, d'effacer l'ardoise, mais de les mettre en œuvre. Et ça demande une volonté, une mobilisation de tous les jours de tout le monde. On n'a pas assez parlé du rôle des ONG, des associations. Je crois que c'est aussi un des messages de la Déclaration universelle de ne pas s'adresser seulement aux États, mais à tous les individus, aux organes de la société. Et donc je crois qu'il faudrait que chacun de nous s'approprie la Déclaration universelle, la lise calmement, tranquillement, et voit son actualité. Mais encore une fois, je crois que de manière très, très concise, cohérente, éloquente, sobre, la Déclaration dit beaucoup de choses pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui.
Mais elle devrait dire de la même manière, je vous ai posé la question, est-ce qu'il faut la transformer? Est-ce qu'il y a des choses à changer dans cette Déclaration?
Non, moi je crois qu'à l'époque, on a trouvé un équilibre qui n'était pas seulement un compromis, qui était une vraie synthèse. Alors il y a des choses un petit peu ambiguës, des choses qui sont escamotées, mais c'est tout à fait marginal. Sur le droit de grève, évidemment, il n'y a pas beaucoup de détails. Sur le droit de propriété, c'est la propriété individuelle ou collective. Mais sur les valeurs, les bases, les droits fondamentaux, il n'y a aucune ambiguïté dans le texte de la Déclaration universelle.
Merci Emmanuel Decaux. Vous êtes l'auteur, je le rappelle, du livre « Les grands textes internationaux des droits de l'homme » publié par la Commission consultative des droits de l'homme à la documentation française. À lire aussi le Dictionnaire des droits de l'homme, un ouvrage collectif édité par les presses universitaires de France, et Défenseur des droits humains, publié par Amnesty International chez Autrement. Je signale également une initiative du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, la réalisation par 22 artistes du film Histoire des droits de l'homme, qui sera projeté en 2009 dans le monde entier et diffusé sur les principales chaînes de télévision. Vous avez pu entendre un extrait du film L'été de la Révolution de Lazare Iglesis, disponible en DVD aux éditions LCJ. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. À la technique, Olivier Riotor et Ronan Mahé. Documentation et archivina, Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, l'assassinat de Henri IV.